le lâcher prise. Je suis un peu désolé de m'être aperçu que trop tard, mais après tout, c'est le risque que l'on prend quand on saisit des mots qui volent dans l'air du temps. Ce mot, finalement, renvoie au même monde que le Caire que j'avais pris précédemment et le Zen que j'avais pris aussi. C'est-à-dire que si l'on fait finalement un dessin avec ces trois mots, le Caire, le Zen et le lâcher prise, on a un assez bon tableau d'une certaine morale qui est la nôtre actuellement, que l'on pourrait désigner méchamment comme une morale du renoncement, du laisser-faire, une morale un peu fatiguée, qui, en tout cas, préfère le vocabulaire du développement personnel à celui de l'effort, qui prend ses distances par rapport, et légitimement, par rapport au modèle de la réussite, de la construction de soi, de la maîtrise de soi, de l'effort, qui ont été pendant longtemps apparemment les mots-clés de la morale, de l'éthique, d'un certain savoir-vivre, et à cette éthique donc de l'effort, de la réussite, on oppose une attitude d'abandon, de disponibilité, que l'on a déjà rencontré donc à propos du Caire ou à propos du Zen. Toutefois, ce soir, je serai sans doute conduit à prendre davantage mes distances par rapport à la vision du monde véhiculée par ces mots, pourtant très à la mode, de lâcher prise. Chantal Delsol, dans son dernier livre, Sombre. L'âge du renoncement, déjà le titre, et le contenu est au niveau du titre, et Chantal Delsol, dans son dernier livre, pointe la confusion entre le lâcher prise et le fiat. Comme si le fiat était une attitude d'abandon de soi, de renoncement. Et c'est ce que je vais prendre comme fil conducteur ce soir. Si bien que je ne parlerai pas beaucoup des méthodes de développement personnel, je les ai regardées, j'ai été sérieux, j'ai regardé, j'ai même regardé le lâcher prise pour les nuls, et j'ai été très déçu. Et j'ai été très déçu parce que j'ai vu des gens qui tenaient rigoureusement le discours contraire à ce que normalement devrait inspirer ce qu'ils disent. Car ils nous disent qu'il y a une méthode du lâcher prise. C'est déjà mal parti. Dans cette méthode du lâcher prise, il faut se fixer des objectifs. Ça continue. Il faut persévérer, et etc., etc. C'est-à-dire qu'au fond, avec ce mot lâcher prise, on ne fait pas autre chose que transposer dans un autre registre la même obsession de l'efficacité, de la performance, fût-ce avec des mots qui semblent évoquer le développement personnel, mais qui au fond sont toujours dans la même logique technicienne. On fixe un but, on a des étapes et on a une méthode pour atteindre le but. Et finalement, toute l'issue s'exprime en termes de réussite. Or, si je croyais avoir bien compris que le mot lâcher prise nous renvoyait à un autre monde que celui de la réussite, de l'efficacité, de la programmation. Alors, c'est ce que je vais essayer de développer ce soir avec vous. Nous sommes dans le journal d'un curé de campagne, de Bernanos. Le jeune inexpérimenté et visionnaire curé de campagne va trouver la noble comtesse dans son château qui remue ses aigreurs, hautaine, Et parce que cette comtesse déteste sa fille, supporte avec une patience douteuse les frasques de son comte de mari. Et donc le jeune curé va rencontrer la comtesse parce qu'il sent qu'il y a dans la hauteur de cette femme une espèce de haine, de fermeture. Qu'en directeur spirituel, tout inexpérimenté qu'il soit, il voudrait arriver à faire sauter. Et au moment de l'entretien, on voit que la comtesse, qui a perdu un enfant et qui a toujours eu, depuis la perte de cet enfant, une espèce de haine universelle et en particulier de haine contre Dieu, qui lui a pris l'enfant qu'elle chérissait, on voit la comtesse tenir de manière frénétique et crispée un médaillon. Et donc il lui exprime, le curé discute longuement avec elle et lui l'invite à tout donner à Dieu. La comtesse parle, elle dit, « Il y a une heure, ma vie me paraissait bien en ordre, chaque chose à sa place, et vous n'y avez rien laissé debout, rien. » Le curé, « Donnez-la telle qu'elle à Dieu. » La comtesse, « Je veux donner tout ou rien. Nous sommes des filles ainsi faites. » Le curé, « Donnez tout. » La comtesse, « Oh, vous ne pouvez comprendre, vous me croyez déjà docile, ce qui me reste d'orgueil suffirait à vous damner. » Le curé, « Donnez votre orgueil avec le reste, donnez tout. » Le mot à peine prononcé, j'ai vu, c'est le journal du curé, le mot à peine prononcé, j'ai vu monter dans son regard je ne sais quelle lueur, mais il était trop tard pour que je puisse empêcher quoi que ce soit. Elle a lancé le médaillon au milieu des bûches en flammes. Je me suis jeté à genoux, j'ai enfoncé mon bras dans le feu, je ne sentais pas la brûlure. Un instant, j'ai cru saisir entre mes doigts la petite mèche blonde, dont on devine qu'elle était dans le médaillon, mais elle m'a échappé, elle est tombée dans la braise rouge, il s'est fait derrière moi un si terrible silence que je n'osais me retourner. Le drap de ma manche était brûlé jusqu'au coude. « Comment avez-vous osé ?» balbutiai-je. « Quelle folie !» Elle avait reculé vers le mur, elle y appuyait son dos, ses mains. « Je vous demande pardon, » dit-elle d'une voix humble. « Prenez-vous Dieu pour un bourreau ? Il veut que nous ayons pitié de nous-mêmes. » Et d'ailleurs, nos peines ne nous appartiennent pas. Il les assume, elles sont dans son cœur. Nous n'avons pas le droit d'aller les y chercher pour les défier, les outrager. Ce qui est fait. Je n'y peux rien, répond la comtesse. Voilà, quelqu'un qui doit ouvrir les mains. Puisque lâcher prise, ça veut dire ouvrir la main. Cela suppose que la main soit refermée sur elle-même comme un poing, comme une griffe, et qu'il y ait toujours dans notre vie des occasions d'ouvrir la main, des occasions de lâcher. D'ailleurs, on peut commencer par se rappeler que lâcher est vraiment le geste de l'homme. Prendre, ça va, nous le partageons avec tous les animaux. Lâcher, laisser être, c'est vraiment la manière dont le sujet humain apprend à apprivoiser la distance avec les choses, à mettre les choses à distance. Chacun se rappelle le spectacle des enfants aux alentours d'un an, quand du haut de leur chaise haute, ils s'amusent à lancer les objets, en attendant qu'on les ramasse, pour justement découvrir cette distance avec les choses. Garder les choses contre soi, les garder repliées sur soi, les écraser en quelque sorte contre soi, c'est précisément le signe d'un sujet qui n'a pas encore bien découvert découvert la distance de soi et de l'autre, et qui voudrait écraser cette distance dans son poing, alors même que finalement, ce geste de donner, on est obligé de dresser les chiens pour apprendre à lâcher, et ce geste de lâcher, donc, est le geste propre de l'homme. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à cette réalité et ce symbole, cette réalité symbolique qui est celle de la main. Et on sait à quel point l'esprit et la main sont liés. Parce que la main traduit vraiment la relation de la conscience au monde. Et la prise, c'est effectivement la fonction technicienne de la main. En revanche, toute la fonction langagière, toute la fonction symbolique, toute la chorégraphie que dessinent nos mains et nos doigts tandis que nous parlons, suppose justement que les mains soient libres. D'ailleurs, pourquoi saluons-nous comme ça? Pour signaler que notre main est libre. Pourquoi nous serrons-nous la main? Pour signaler que notre main est libre. Et l'espace de la conscience, l'espace de la main comme champ de signification, comme langage, ne peut se déployer qu'à condition précisément que la main cesse d'être un outil, elle en est un, mais qu'elle cesse d'être un outil pour être un signe. On a longuement dit que la main est un outil. Aristote le dit, tout le monde le dit, la main est un outil perfectionné. Mais il faut dire bien davantage, la main n'est pas un outil seulement, elle est un signe, elle est un langage. Car si elle était un outil, elle ne servirait comme les outils qu'à prendre et ramener à soi. Alors que tous les gestes humains sont justement des gestes qui marquent la venue et l'éloignement, la proximité et l'éloignement, et la plasticité de la main, sa souplesse, ses articulations sont justement ce qui permettent cette liberté réelle. D'ailleurs, on n'en finirait pas de d'énumérer tous les termes qui, dans notre langue, renvoient à cette importance de la main. J'aime bien, par exemple, le mot « émanciper », qui veut précisément dire « sortir de la main ».« Mancipere », »,« mancapere », c'est « prendre la main ». Le mancipium, c'est le propriétaire. Celui qui est émancipé, c'est l'esclave qui, justement, échappe à la main. J'aime bien le mot mandat, qui est donner la main. Et donc, échanger aussi à la main avec l'autre, dans la mesure où celle-ci, donc, signifie l'activité et la puissance. Ainsi, le lâcher prise, et je crois que c'est ce qui fait le succès de ce mot, est à opposer, comme je le suggérais au début, à la technique qui est précisément une prise en main. Et qui est une prolongation de la prise en main par l'intermédiaire de l'outil, par l'intermédiaire de la machine, une prolongation de ce que Heidegger appelle très joliment, enfin les traducteurs de Heidegger, pour une fois c'est une traduction heureuse, appelle très joliment l'arraisonnement sur le monde. Heidegger dit la technique arraisonne le monde. Quel mot juste qui désigne à la fois la prise de possession et le filet d'une rationalité opérante jetée sur les choses pour les dominer. Et donc, s'il y a quelque chose à apprendre de cette expression du lâcher prise, c'est effectivement donc la distance avec une vision technicienne du monde qui, comme je le disais tout à l'heure, s'exprimerait par un calcul, une méthode. Inutile de dire que nous sommes envahis de l'idée de méthode, et que si le lâcher prise est à son tour une méthode, ben ça fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas sur le côté. Et que justement il s'agit de raisonner en dehors de l'idée de la méthode, qui qui consisterait à articuler des étapes pour parvenir à un but qui exprimerait une réussite. Cette réflexion sur le lâcher prise, je la développerai à travers trois analyses, brèves, rapides, qui se veulent plus suggestives que analytiques, du coup j'illustre mon propos. La première analyse, celle de la beauté comme lâcher prise, la beauté comme émancipation. Faire l'expérience de la beauté, c'est vraiment faire l'expérience du lâcher prise. C'est ce que me disait ma mère, tiens, tout d'un coup, je pense à elle. Quand je lui disais, cette fille est jolie, ma mère, qui était une femme prudente, me disait, tu sais, mon petit, la beauté, ça se mange pas en salade. Et ce que je comprends peu à peu l'importance de ce mot, et qu'en tout cas, la beauté, précisément, c'est ce qui nous inviterait à renoncer à la prise. Et a fortiori au manger, qui est vraiment l'assimilation réductrice de l'altérité. La beauté, ça se mange pas en salade. Je n'en finirai pas de méditer ce mot. Deuxième analyse que je proposerai pour exprimer le sens du lâcher prise. J'évoquais au début de ce propos le fiat, et donc je ferai une analyse de la foi, de l'acte de la foi, comme précisément un geste d'ouverture, un geste de lâcher prise qui fait que l'on renonce à être celui qui s'approprie des raisons. Et enfin, je terminerai par une analyse de l'étreinte et de la caresse. Nos contemporains ont beaucoup à comprendre de ce point de vue, et on a beaucoup à comprendre de l'étreinte et de la caresse comme précisément une expérience du lâcher prise. Et sans doute celle qui, dans notre intimité la plus profonde, nous reconduit à cette exigence du lâcher prise. Premièrement, la beauté. Et cette réflexion sur la beauté, je la suivrai entièrement avec Heidegger. Dans son grand livre « L'être et le temps », grand livre inaugural, Heidegger distingue deux relations avec le monde que justement il évoque par l'intermédiaire de la main. La Zuhandenheit et la Vorhandenheit. Zuhandenheit, alors je plains les traducteurs, enfin je ne les plains pas parce qu'ils passent leur temps à se disputer, ça les intéresse. Si on devait traduire Zuhandenheit, il faudrait le traduire par la pour la main ité. Bon, l'être pour la main. La Vorhandenheit, c'est la devant la main ité, ce qui est encore moins clair, si l'on peut dire, et en tout cas, c'est l'être qui n'est pas pour la main, mais qui est devant la main. On va résumer, nous, de façon peut-être plus superficielle, mais en tout cas plus claire, en disant il y a deux relations avec le monde, une relation dans laquelle le monde est pensé comme un produit disponible, ce qui correspond à la Zuhandenheit, c'est-à-dire à l'être pour la main. Ce produit disponible, il est dominé, il est asservi, il est ignoré, car je ne connais pas ce que je domine. Je suis condamné à ignorer ce que je domine. Et la Vorhandenheit, qui correspond donc à non pas l'être disponible, mais l'être subsistant, et en face duquel on est, devant lequel on est, comme devant un spectacle, comme devant le déploiement d'un écran objectif. Donc Heidegger, dans Être et Temps, nous dit, ben voilà, il y a deux relations avec le monde, celle où je prends le monde en main au prix même de l'ignorer, parce qu'au fond, l'outil que j'utilise n'est que le prolongement ignoré de mon corps. Heureusement que je ne pense pas au marteau quand je martèle. Je vous le déconseille. J'ai essayé une fois. Donc la condition pour donner des coups de marteau, c'est que précisément ce marteau, finalement, disparaisse dans sa disponibilité. Et que cette disponibilité fait que je ne m'intéresse absolument pas à lui dans ses propriétés, si ce n'est les propriétés qui me sont utiles. Donc la Tzur and the Night, l'être disponible, l'être pour la main, c'est ce que j'évoquais à travers la vision technicienne du monde, vision qui ramène la rationalité à l'efficience et au calcul, et finalement ne s'intéresse pas à ce que sont les choses, mais ne s'intéresse qu'à leurs propriétés exploitables. C'est pourquoi nous sommes condamnés à ignorer ce que nous dominons, et a fortiori à ignorer ce que nous dominons. Car ce que nous dominons, nous ne voulons en connaître que les propriétés exploitables. Le monde, sous le filet de la technique, est un ensemble de ressources, de forces, que l'on peut extraire, que l'on peut déplacer, que l'on peut transformer, qui est sommé de, comme le dit Heidegger, de répondre à nos plans, si bien que la géographie, la géologie, la physique ne s'intéressent au monde qu'en tant qu'il nous livre des propriétés exploitables. C'est ce qui fait que, ça a été souvent observé, il semble bien que ce soit le destin de l'Occident, que de devenir étranger à ce monde à proportion où il est exploité. Tout se passe comme si, au fond, je rentrais de plus en plus dans une espèce de grande machine dont j'ignore l'être même pour ne m'intéresser qu'à ses propriétés. La Four and the Night. Alors, Heidegger prend un exemple bizarre. Il dit, la Four and the Night, c'est ce qui surgit, la Four and the Night, donc c'est être devant. C'est ce qui surgit quand l'outil est cassé, inutilisable ou obsolète. Alors, l'outil inutilisable, effectivement, lui, je n'ai plus de questions à lui poser. Il est au rebut, en quelque sorte. Et s'il devient objet de curiosité, parfois même rentrant dans un magasin d'antiquaires, c'est précisément parce que il est devenu inutile et que, devenu inutile, il devient un spectacle. Mais alors, tout se passe comme si nous n'avions que deux relations au monde, l'utilisation et le spectacle. Être devant, être en face, c'est encore, finalement, un autre mode d'être de la technique. Se donner, regardez les points Kodak, se donner un point de vue panoramique sur le monde, se donner le monde comme spectacle, c'est encore finalement la même logique technicienne d'un sujet séparé du monde. Alors quelques années plus tard, dans un livre mal traduit, Les chemins qui ne mènent nulle part, on aurait dû condamné à mort le traducteur, donc dans un livre qui s'appelle Les Holzwege, les chemins forestiers, ce qui veut dire chemin qui ne mène nulle part, bien sûr. Quelques années plus tard, dans Les Holzwege, Heidegger s'intéresse à ce qui pourrait sans doute renouer notre lien avec le monde, qui ne serait pas chose ignorée parce que dominée, et qui ne serait pas spectacle panoramique dont je suis purement éloigné à la manière d'un panorama. Et au fond, cette expérience qui noue essentiellement notre relation avec le monde, c'est celle de la beauté. Or, on ne va pas, hélas, s'attarder trop longtemps sur cette idée de beauté, j'en dis juste une idée qui est tout à fait essentielle, c'est que la beauté conteste notre rapport au monde. La beauté conteste notre regard habitué et même transforme nos sens perceptifs, car au fond, nos sens perceptifs, la plupart du temps, nous servent à donner des informations. La porte est à franchir, il faut que je ralentisse parce qu'il y a un panneau ou j'accélère, et quand je conduis, je ne peux pas m'amuser à trouver le monde beau. Pourquoi ? Parce que quand je conduis, je ne dois surtout pas être ému. Et quand je conduis, il faut que je resserre le plus possible l'éventail de mes émotions. C'est à ça que sert l'habitude. L'habitude sert à resserrer l'éventail des émotions. Plus je suis maître de mes habitudes, plus je traite mon corps lui-même comme une machine, et donc plus je suis à l'abri d'une émotion. C'est le modèle du GI. Restreint la bande émotionnelle, et heureusement, puisque c'est une condition de l'action. Le monde ne se donne dans sa beauté que pour autant que je cesse d'y chercher des informations. Que pour autant que je cesse d'y chercher des moyens d'agir je me mets moi-même dans une attitude de contemplation, à moins que la beauté, comme une surprise, ne vienne faire vaciller ce qui était jusqu'à présent mon regard habitué. Autant vous dire que la vraie expérience de beauté est quand même assez rare. Mais elle nous arrive. Et elle nous arrive parfois, justement, dans ces moments où nous apercevons que nous voyons le monde, parfois quelque chose que nous avons vu tous les jours, comme nous ne l'avions jamais vu. Et que nous ne posions au monde que des questions extrêmement limitées, à quoi ça sert, où ça va, quand est-ce qu'on mange, et que le monde a bien d'autres... On mange dans un bientôt. Je vais essayer de terminer tôt pour qu'on puisse manger rapidement. J'en vois qu'il s'impatiente. Donc nous ne posons au monde qu'un certain nombre de questions assez rudimentaires, alors qu'il a bien d'autres choses à nous dire. Et alors ça, Heidegger le montre avec un peu d'obscurité, parce que c'est un auteur qui aime les écrans de fumée, mais avec profondeur, disant que justement, la beauté conteste notre capacité à avoir prise sur le monde. Voilà. Et si je veux rester celui qui a prise sur le monde, eh bien je ne regarderai pas le film, je regarderai les effets spéciaux. Je regarderai les acteurs, je m'apercevrai, oh, t'as vu, c'est un western et pourtant il y a des fils électriques, et je regarderai pas le film, quoi. Il y a des gens qui ont un don pour ne pas regarder le film. Et pour être toujours, même face au film, dans une espèce de posture analytique un peu benette, ils font les malins, alors que précisément devant la beauté, j'ai absolument pas à faire le malin. Puisque elle fait tomber la taie que j'ai sur l'œil et me renvoie, dit très profondément Heidegger, à ce qui est insaisissable. Voilà pourquoi Heidegger dit que la beauté est l'éclosion de la vérité. Non pas une vérité qui sera donnée comme un résultat au bout d'un calcul. Toc, 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 et j'encadre le résultat de mon addition, mais au contraire, une vérité qui est donnée comme manifestation. Une vérité que je ne pourrais pas mettre au congélateur, que je ne pourrais pas enregistrer. D'ailleurs, je la perds dès que je la photographie. Et dès que je me dis « plantons trois tentes » pour essayer d'arraisonner cette expérience et la mettre à l'abri de nos souvenirs, de nos moyens d'enregistrement, etc., c'est fini, je ne regarde plus, ou plutôt je ne vois plus. Et je me suis justement remis dans la posture de celui qui tente de saisir le monde. Je donne la parole à Heidegger en m'excusant, enfin en l'excusant d'une certaine obscurité, je cherche les... mais c'est dommage, parce que c'est une très belle langue, mais... Bon. Grâce à la mise en œuvre d'une clarté qui se prodigue à nous, tout l'habituel, tout le disponible, devient pour nous du néant. Tout cela vient de perdre le pouvoir de donner et de maintenir l'être comme mesure. La beauté ne se mesure pas. L'étrange ici, c'est que l'œuvre n'agit en aucune manière par relation causale sur l'être jusqu'alors disponible. L'efficience de l'œuvre n'a rien d'un effet. C'est que le poème, le mot poème chez Heidegger signifie la création, c'est que le poème, en tant que projet dévoilant, déploie et projette en avant ce qu'il déploie, c'est l'ouvert. Ce mot l'ouvert est un mot qui en allemand a une grande importance, qui vient de, entre autres de Rilke, dans la 8e élégie de Duino. Rilke dit « De tous ses yeux, la créature ne voit que l'ouvert. Mit allen Augen sieht die Kreatur das offene. » De tous ses yeux, la créature ne voit que l'ouvert. Nous seuls, dit-il des hommes, sommes en face du monde. Et le monde en face duquel je suis, c'est précisément le monde fermé. Le monde que je décris comme une paroi que je vais pouvoir modifier, sur laquelle je vais pouvoir tracer mes hiéroglyphes, mais le privilège de l'animal, du moins tel que nous le voyons de l'extérieur, c'est d'être dans cette pure ouverture, cette pure disponibilité, bien traduite par le mot l'ouvert, qui s'oppose à l'objet, vous voyez, sur lequel je referme. Donc l'objet, c'est ce que je prends en main. Et donc si je veux bien comprendre ce que signifie le mot lâcher prise, renoncer à prendre en main, ça veut dire que justement le monde ne se comprend pas dans cette attitude qui vient se refermer sur un objet, mais dans cette disponibilité qu'est l'ouverture et à laquelle nous conduit l'expérience esthétique. Deux pages plus loin, on peut lire « L'éclat de la mise en œuvre de la vérité, renversant tout simplement le saisissable et ce qu'on tenait pour tel, ouvre par là l'insaisissable. La vérité s'ouvrant n'est donc jamais déductible à partir de quoi que ce soit et surtout pas à partir de ce qui est ordinairement disponible. » C'est au contraire l'étang jusqu'à présent de mise, jusqu'à présent disponible, qui se trouve réfuté, démenti par l'œuvre quant à l'exclusivité de sa réalité. Ce qui est instauré par l'art ne peut donc jamais être compensé par le donné habituel et disponible. Conclusion de ce paragraphe, le dévoilement est une surabondance, un don. Il faut donc, si l'on comprend bien, distinguer l'objet qui est pris et la beauté qui est donnée. Ma mère avait raison. La beauté ne se mange pas en salade. Et la beauté interdit qu'on la prenne. Et elle ne peut être qu'accueillie. Et elle ne peut être qu'accueillie qu'à condition, précisément, de ne pas refermer des doigts crochus sur elle. Et donc, si nous suivons la piste indiquée par cette expérience de la beauté, nous pouvons comprendre l'importance spirituelle du lâcher-prise. Deuxième champ dans lequel je voudrais exprimer cette importance du lâcher-prise, c'est la question de la foi. Question rendue obscure par bien des sottises, parce que, vous savez, il est de mise, il est convenu, il est habituel, de dire il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. C'est absolument faux, il y a des preuves de l'existence de Dieu. Elles sont même excellentes. Elles sont même vraiment démonstratives. C'est pas qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, c'est qu'une preuve ne donnera jamais la foi. Parce que tant que je demande une preuve, ben c'est que j'ai pas la foi. C'est quand même. De temps en temps, il faut être simple. Et donc, je peux donner, il y a trois grandes preuves de l'existence de Dieu qui sont absolument démonstratives, qui disent que l'idée de Dieu est vraiment l'idée la plus rationnelle. S'il y a une idée rationnelle, c'est bien l'idée de Dieu. Mais ça n'a jamais donné la foi à personne. Parce que justement, avoir la foi ne consiste pas à croire sans preuve, mais consiste à lâcher la preuve. Et l'acte même de la foi ne consiste pas à vouloir croire sans savoir, comme quelqu'un qui dirait « je te fais confiance, je ne veux pas savoir ». Mais si je voulais savoir, je ne ferais pas confiance non plus. Et donc faire confiance, foi, n'est pas de la même racine que la croyance, mais que la confiance. J'ai foi en Jean-Luc. Ça veut dire, j'ai confiance en Jean-Luc. Ça veut pas dire, je crois que Jean-Luc existe. Je me suis jamais posé la question de savoir si Jean-Luc existait. Je me pose la question de savoir si je crois en Jean-Luc. Mais mieux, si je crois Jean-Luc. Oui, je crois Jean-Luc. Et si je demandais des preuves pour croire Jean-Luc, je cesserais de croire Jean-Luc. Si je mettais des enquêteurs, des caméras pour surveiller sa conduite, et bien par là même, plus je le surveillerais, moins je croirais en lui. Et donc plus j'aurais de preuves qu'il mérite confiance, moins j'aurais confiance en lui. C'est quand même simple. Et donc plus je mettrais d'inspecteurs pour suivre ma femme, il en faudrait beaucoup parce qu'elle a une vie agitée, plus je mettrais d'inspecteurs pour surveiller ma femme, plus j'aurai de raisons de penser qu'elle m'est fidèle et moins j'aurai de raisons de croire en elle. Et la foi, c'est exactement ça. Je comprends, je ne peux pas y penser sans énervement tellement on entend de sottises là-dessus. Donc ça ne consiste pas à dire j'ai pas besoin de preuves, etc. Non, ça consiste dans le fait qu'à un moment, il faut passer du possible au réel. Du c'est bien possible au c'est réel. Et il y a un seul moyen de passer du possible au réel, c'est de lâcher les preuves. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui sont des malades du doute. Comme le dit Chesterton, les fous ont tout perdu, sauf la raison. C'est-à-dire qu'un malade mental, c'est quelqu'un qui n'a que la raison pour se relier au réel. Ben, je peux vous dire que ça ne tient pas chaud. Et donc, si vous partez de chez vous et que vous vous dites « Est-ce que j'ai fermé le gaz ?» Vous revenez sur vos pas. Vous vérifiez que vous avez bien fermé le gaz. Vous sentez l'horizontalité et la froideur de la manette qui vous résiste. Vous repartez, et là, si vous vous dites une deuxième fois, est-ce que j'ai bien vérifié que j'ai fermé le gaz? Vous êtes foutu. Il y a bien un moment où il faut avancer. L'action est une ignorance en marche. Et il y a bien un moment où il faut que j'aille plus loin que tous les examens que je ferai jamais. Sinon, nous ne pourrions même pas vivre. Donc l'acte de foi est la condition même de la vie. Et cet acte de foi, il exige précisément que on ne s'arrête pas aux preuves. C'est le complexe de Hamlet. Hamlet bousille tout parce qu'il veut des preuves. Et c'est pour ça qu'il est dans l'hésitation, la procrastination. Concept. Quel beau mot. Begriff. Concept, ça veut précisément dire prendre ensemble. Begriff, c'est la saisie. Et donc le concept, c'est ce que l'on prend. En quelque sorte, tant que je tiens le concept, je n'ai pas la réalité. Pour avoir la réalité, il faut que je lâche le concept. Et que je ne me préoccupe pas indéfiniment de définir, de déterminer les propriétés, etc. Donc une preuve, elle atteindra un concept. Ce qui est bien, c'est pas moi, philosophe, qui vais en dire du mal. Vous vous rendez bien compte. Et heureusement qu'on a les moyens de montrer la validité d'un concept. Mais il y a un moment où précisément l'action, l'acte de foi, consiste donc à renoncer à la saisie, renoncer donc au prendre, lâcher prise, et renoncer donc à ce point, en quelque sorte, qu'est le concept, qui permet certainement la maîtrise, la domination, et on ne s'en plaint pas, mais qui permet de ramener le réel à soi, mais qui ne permet précisément pas de le rencontrer. C'est un point que Kierkegaard a traduit dans les miettes philosophiques, justement à propos de la question des preuves de l'existence de Dieu, où il dit: je retrouve la ligne exacte. Alors, il compare l'existence de Dieu à, je ne sais pas bien, je n'ai pas vérifié, à ces espèces de jouets qu'on appelle des culbutos, qui, quand on les lâche, se remettent toujours sur leurs pieds. Et alors, il dit, l'existence de Dieu, c'est exactement comme un culbuto, il faut le lâcher. Et tant que je le tiens, finalement, je le réduis à un objet dominé. L'acte propre de l'homme, c'est de le lâcher. Dès que je lâche la poupée, elle se redresse. Dès que je la lâche, il me faut donc la lâcher. De même pour la preuve. Aussi longtemps que je la tiens en main, c'est-à-dire que je poursuis la preuve, la réalité ne surgit pas. Pour cette raison du moins que je suis en train de le prouver. Mais dès que je lâche la preuve, la réalité est là. Mon acte de lâcher, ça y est, c'est notre sujet, mon acte de lâcher est pourtant aussi quelque chose, meine Zutat, mon apport personnel. Ne doit-il donc pas aussi entrer en ligne de compte ce petit instant, si court soit-il, il n'a pas besoin d'être long, puisqu'il est un saut. Si petit soit-il, même réduit à l'instantané, ce clin d'œil doit compter. Lâchez la preuve. Et vous voyez bien que Kierkegaard décrit le fait de lâcher la preuve comme un acte. Même sans doute comme l'acte par excellence. Alors il faudrait, s'il en avait du temps, bien distinguer ce qui est l'acte et ce qui est la production. La production, c'est la construction d'un objet au bout d'un processus que l'on peut planifier, que l'on peut réduire à une méthode. Mais, je le disais au début de ce propos, l'acte propre de l'homme, c'est de lâcher. Et cet acte, en apparence tout négatif, est le seul qui fasse advenir de l'être. Tant que je produis, je fais advenir des objets, pas des êtres. La seule chose qui fasse advenir des êtres, c'est l'acte de lâcher. Lâche-moi un peu. Et sinon, je n'ai au bout du compte donc que des résultats. Donc il faudrait bien distinguer l'objet et la réalité. Le produit et l'être. Et bien comprendre que il y a plus d'action dans le non-produire, il y a plus d'action dans le geste de laisser être. Lâcher, c'est laisser être. Que dans celui de dominer, planifier, organiser, etc. Troisième analyse, l'étreinte. D'ailleurs, quel mot intéressant, celui de l'étreinte. Étreindre, serrer sur soi. Et c'est bien le geste apparemment spontané de nos tendresses et de nos désirs. Je te mangerai. Prendre est le geste apparemment spontané du désir. Mais geste contradictoire, puisque c'est bien ce qui fait notre désespoir, car aussitôt que j'ai pris ce que je désire, je l'ai nié. Si l'on comprend bien la nature du désir, ça n'est pas de s'achever dans une prise. Quand je dis « Oh la jolie fleur !» que je la prends, je la tue. Et si j'admire vraiment la beauté de la fleur, je n'ai qu'une manière d'admirer cette beauté, c'est de la laisser être. Ce qui suppose effectivement donc de desserrer les doigts, de rentrer dans une autre logique que celle de la prise, qui est précisément, on l'a dit pour la beauté, celle de la contemplation. Or, cela, de manière obscure, est difficile, parce que ce sont des situations violentes, on en sait quelque chose, nous sommes entre adultes, donc on sait à quel point les hommes et les femmes peuvent se déchirer dans leurs gestes de tendresse. C'est bien dans ce moment infiniment délicat, dont tous nos contemporains nous font croire qu'il est facile, alors qu'il est le plus difficile de tous, le plus délicat, le plus précieux, c'est bien dans ce moment que se joue la dialectique de la prise et du lâcher. Et que se joue la dialectique de la proximité et de l'éloignement. Et au fond, toutes nos caresses sont dans cette dialectique de la proximité et de l'éloignement. Désirer, c'est vouloir rendre proche. Mais vouloir rendre proche, bien que ce soit contre-intuitif, ça n'est précisément pas prendre. Puisque je disais que je suis condamné à ignorer tout ce que je domine. Et donc quand je prends, la chose que j'ai prise, la chose que j'ai rapprochée de moi, par là même, je l'ai éloignée. Du lâcher prise, il faut dire, et on peut le dire encore plus dans nos gestes de tendresse, du lâcher prise, il faut dire qu'il consiste à accepter de s'exposer. C'est bien pour ça que l'érotisme manque la tendresse. L'érotisme, c'est une logique productiviste du plaisir, qui justement se met ou dans une position technicienne, passons ce détail, ou c'est les problèmes de tuyauterie de Sade, dans une position spectatrice, mais qui, ce à quoi manque et ce que veut manquer le sujet érotique, c'est le fait d'être lui-même exposé. D'où la volonté de réduire l'autre à un objet, d'où la volonté d'être dans une position de spectacle, d'où la métaphore du regard, qui est précisément l'essence même de l'érotisme, comme possibilité de réduire, de rapporter à soi. De telle sorte que si l'étreinte achève le désir, si l'étreinte était le but du désir, le terme du désir, au fond, elle le décevrait. D'ailleurs, c'est bien comme ça que cela se passe la plupart du temps en nous. Un auteur contemporain que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Chrétien, professeur à la Sorbonne, décrit très bien ça dans un grand livre qui s'appelle L'effroi du beau. Enfin, un grand livre, vous voyez, que vous pouvez vous le procurer. Et même, vous pouvez le lire, parce que Jean-Louis Chrétien fait partie des rares philosophes qui savent écrire. Et donc, il parle de l'étreinte comme rencontre. Et pour que l'étreinte soit une rencontre, il faut que je sois exposé en même temps que je prends. D'ailleurs, c'est pourquoi l'amour se donne dans le toucher. Parce que le toucher est le seul sens dans lequel je sois simultanément actif et passif. Je ne peux pas toucher sans être touché. Je peux voir sans être vu. Je peux entendre sans être entendu. Je peux sentir sans être senti. Je ne peux pas toucher sans être touché. Et c'est pour ça que la tendresse est, contrairement à ce que pensent nos contemporains, la situation la plus dangereuse et la plus difficile. Parce que précisément, c'est celle dans laquelle je m'abandonne. Et je ne peux pas faire autre chose que m'abandonner. Et toute volonté qui consisterait à traduire autrement que dans l'abandon, transformerait donc en instrument des réalités érotiques insignifiantes. Alors, la rencontre, donc, suppose bien une altérité. Je ne rencontre pas les objets que je domine. Je les utilise, je ne les rencontre pas. La beauté est une rencontre. La foi est une rencontre. L'étreinte est une rencontre, quand elle est une étreinte. Et elle est une rencontre parce que, précisément, il y a alliance du passif et de l'actif et coïncidence quasi miraculeuse de la proximité et de l'éloignement. Je vous lis quelques pages de Jean-Louis Chrétien. La rencontre promet plus que l'étreinte ne peut tenir. L'embrassement tient moins que ne promettait la rencontre là où il cherche à étreindre et à abolir la promesse, là où il entend l'accomplir de façon qu'elle disparaisse et s'achève. Dans les intrigues amoureuses de nos films, le moment où on couche ensemble, c'est le moment qui achève, alors que dans une histoire normale, c'est le moment qui commence une histoire. Bon, et du boulot. Il y a vraiment du boulot chez... On est effrayé quand même de la grossièreté du monde dans lequel on est. C'est effrayant. L'embrassement tient moins que ne promettait la rencontre, là où il cherche à étreindre et à abolir la promesse, là où il entend l'accomplir de façon telle qu'elle disparaisse et s'achève. Si l'embrassement tente de clore ce que la promesse ouvrait, de mettre fin à ce qu'elle avait inauguré, il est en effet nécessairement décevant. Et un peu plus loin, on peut lire « La caresse est une approche infinie. Sa traversée de la proximité ne connaît pas de havre. L'inconnu de ce qu'elle explore naît avec son exploration. Elle échoue sans fin à la plénitude intangible du corps aimé. Je caresse un corps intangible. » Et c'est précisément pour ça que je le caresse. Je ne caresse pas 55 kilos de viande. Si je caresse un corps, c'est précisément parce que ce corps est allusif à une réalité intangible. Et que la seule manière radicale de traduire l'intangibilité de ce corps, c'est précisément d'aller même le toucher. Ça se sait d'ailleurs dans la tendresse amoureuse, mais aussi bien d'ailleurs dans le soin médical. Car il y a dans le soin médical quelque chose d'essentiel dans le toucher. Et qui est précisément une attitude qui se refuse à réduire le patient à être simplement l'objet d'analyse sur papier millimétré. Cette intangibilité frémissante et glorieuse n'est pas l'étrangeté de ce qui se tient au-delà d'un espace infranchissable, elle ne franchit que dans la proximité amoureuse. Il y a une intangibilité qui nie le tact, mais la plus lumineuse n'est révélée que par lui. Cet intangible naît à la pointe incandescente de la main, Il est le secret incessamment manifesté de la douceur de l'effleurement ou la violence de la prise, douceur inexorable et violence respectueuse. Ce que la caresse approche n'est jamais ce à quoi elle échouera, épaule ou sein. Sa destination n'est pas une partie du corps de l'autre, mais le corps tout entier. Et c'est pourquoi elle se voudrait ubiquitaire. Elle ne veut atteindre ni une partie du corps, ni un corps, mais l'être aimé, et elle ne l'atteint que en tant qu'il se dérobe à elle. La caresse veut atteindre ni un corps, ni une partie du corps, elle veut atteindre l'être aimé, et elle ne l'atteint que pour autant qu'il se dérobe à elle. Et c'est justement ce que manifeste la proximité du désir et du respect dans la caresse. Et on retrouve, sous la plume de Jean-Louis Chrétien, qui est par ailleurs un lecteur de Heidegger, cette idée du dessaisissement de la proximité de l'insaisissable. La proximité de ce que nous éloignons pour le saisir n'est pas la proximité de l'insaisissable qui nous saisit. Voilà. Quel sens on pourrait trouver à ces mots, finalement assez beaux, de lâcher prise, si on n'y voit pas une pitoyable méthode de savoir-vivre. On voit bien qu'on est bien au-delà de la méthode, on est bien dans un enjeu spirituel. Et que aucune habileté... Alors j'ai lu donc le lâcher prise pour les nuls, on vous dit respire, bon, c'est bien, moi je suis pas contre, mais c'est précisément ne pas comprendre que l'enjeu est bien davantage spirituel que procédurier, et que aucune méthode ne nous dispensera d'avoir au fond à nous convertir pour penser un grand mot. Car si j'ai terminé par la caresse, c'est pour bien montrer que lâcher, ça n'est précisément pas se débarrasser. Et que c'est même le contraire, au fond, de se débarrasser. Car lâcher n'a de sens que d'en recevoir. Et donc le contraire de prendre, ça n'est pas lâcher. Le contraire de prendre, c'est recevoir. Mais alors évidemment, pour recevoir, il faut lâcher. Et c'est ce qu'Abraham a à vivre dans le sacrifice d'Isaac. Car il faut qu'il lâche Isaac pour le recevoir. L'objet de la promesse, il pourrait dire, donner c'est donner, repris c'est voler. Eh bien non, l'objet de la promesse ne peut pas être sa propriété, l'objet de sa promesse, de la promesse Isaac, il faut que ce soit non pas une propriété, mais un don. Et nous sommes conduits à perdre tout ce que nous voulons posséder et à, en quelque sorte, recevoir tout ce que nous acceptons de lâcher. Donc plutôt que prendre lâcher, au sens abandonné, laisse tes soucis, lâche un peu, etc. Plutôt que lâcher, donc au sens d'abandonner, il faut penser la réciprocité du recevoir et du donner. Et penser que l'être n'est pas l'objet disponible à notre prise, mais qu'il est un don, et qu'un don n'est précisément pas une propriété. Je ne suis pas propriétaire des dons que j'ai reçus. D'ailleurs, on le sait, car on n'aime pas que les gens aillent revendre les cadeaux qu'on leur a faits. Le don que j'ai reçu, je n'en suis pas propriétaire. Et je ne peux pas refermer la main dessus en disant « c'est à moi ». Au contraire, il n'est plus à personne. Il est même tellement peu à personne qu'il échappe au circuit marchand. Et reconnaître donc la vie comme un don, c'est la condition du lâcher prise. Donc si je lâche prise sans reconnaître la vie comme un don, alors c'est un abandon. Mais si le lâcher prise est précédé de la reconnaissance du don, alors c'est une réception. Et donc, dans tout le discours sur le lâcher prise, on voit au fond, c'est pour ça que je disais, une morale un peu fatiguée de l'abandon. C'était méchant. Et donc, si on veut donner toutes ses chances à cette notion, il vaut bien mieux la comprendre comme don. Quelle était donc la faute de la comtesse? Pourquoi, alors qu'elle dit « je donne tout » et qu'elle desserre sa main pour jeter le médaillon auquel elle tenait, pourquoi le curé de campagne va-t-il lui dire « qu'avez-vous fait là ?» C'est qu'elle croyait donner et elle niait. Elle croyait donner et elle rejetait. Et qu'au fond, son éviction de ce à quoi elle tenait de manière crispée, restait orgueilleuse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle dit « J'ai en moi des ressources d'orgueil qui suffiraient à vous damner 10 fois. » Et donc, il y a un geste d'ouvrir la main, mais si j'ouvre la main pour jeter ce à quoi je tiens au feu, alors, précisément, c'est au fond un ultime orgueil. C'est pourquoi je terminerai par Bernanos encore, et non pas par le journal d'un curé de campagne, mais par la joie. Dans la joie, il y a le personnage assez ressemblant avec la comtesse, sauf que là c'est une vieille folle, une vieille démente, qui erre dans la maison où est morte sa belle-fille qu'elle haïssait. Et cette démente arpente la maison en ayant sans cesse ses vieux doigts crochetés et crispés, non pas ce coup-ci sur un médaillon, mais en quelque sorte, sur pire encore, sur des clés. Et Chantal de Clergerie, qui est la radieuse jeune fille, une figure la plus lumineuse de la littérature, de lucidité aimante pour son entourage, une jeune fille dont la pureté bouleverse les êtres les plus haineux et les plus cadenassés. Donc Chantal de Clergerie discute avec sa grand-mère, donc, parce que c'est sa grand-mère, j'ai oublié de le dire, et on sent que cette vieille n'arrive pas à mourir, quoi. Et elle n'arrivera pas à mourir tant qu'elle tiendra les mains crispées sur ses clés. Il va falloir qu'un jour, elle ouvre les mains. Mourir, c'est accepter d'ouvrir les mains. Je vous lis ce passage qui apparemment nous donne le même épisode que le journal d'un curé de campagne et en fait nous donne une toute autre lumière sur le même geste. « Mes clés, dit la vieille, crois-tu que je prenne un malheureux trousseau de clés pour le Saint-Sacrement? Je t'étonnerais beaucoup, ma petite, si je te disais ce qu'il en est. » Mademoiselle de Clergerie posa doucement sa joue sur l'oreiller à côté de sa grand-mère. « Pas tant que ça, peut-être, fit-elle. Vous savez très bien, grand-mère, que vos clés n'ouvrent pas une porte ici, pas un tiroir. Vous ne vous en servez jamais. » Ce sont des clés pour rire. Seulement, vous ne voulez pas avoir l'air de vous en apercevoir. Oui, maman, laissez-moi vous dire, ne vous fâchez pas, à votre âge, si près de Dieu, c'est encore trop d'un petit mensonge. L'âme n'est plus de force à le supporter. Et il y a encore les autres mensonges, pensez donc, ceux de toute la vie, il en reste toujours quelque chose, ils doivent empoisonner les vieilles gens. Arrachez du moins celui-là, les autres viendront avec, tous ensemble, comme les liserons d'un groseillier. Alors vous serez réconciliés avec les vivants et les morts. C'est moi qui vous le jure. Vous pourrez dormir en paix. Tu as deviné, dit la folle. Est-ce possible? Tu devines tout, c'est merveilleux. Oui, je le savais, elles ne sont bonnes à rien. Je pourrais te dire quel jour on les a mises sur ma table à la place des vraies. Elles sentaient encore la rouille, l'homme les avait frottées la veille au sable sous ma fenêtre. N'importe, prends-les, je te les donne. À présent que tu sais, à quoi peuvent-elles me servir? D'ailleurs, je suis lasse. Mon cœur lui-même s'endort, mignonne. Désormais, vois-tu, je m'en vais pouvoir être lasse tout mon sou. Ses épaules eurent à peine un léger frisson. Elle dormait. C'est le même épisode apparemment que celui de la comtesse. Faut lâcher ce sur quoi les doigts sont crispés. Seulement, la différence avec l'épisode de la comtesse, c'est qu'ici, les clés, elle les donne. Et elle les donne à celle qui, justement, l'invite à comprendre que ses mains crispées sont refermées sur un mensonge ultime. Et l'on devine donc que cette vieille folle qui s'endort enfin, alors qu'elle arpentait sans cesse la maison, ses clés aux mains, va pouvoir mourir. Et que, au fond, le lâcher prise, s'il est une leçon juste de la vie, c'est qu'il nous suggère que, de toute manière, toute existence suppose qu'à un moment ou à un autre, on ouvre les mains pour l'abandon final. Je vous remercie de votre attention. On prend un petit moment d'échange, de discussion. Pas trop, puisque il y a des nourritures terrestres qui nous attendent. Qui ouvre le feu ? Oula. Non, je ne vais pas le développer maintenant. Vous pouvez regarder dans le premier livre de la Somme théologique de Thomas d'Aquin. C'est vite fait, hein. Ça fait deux pages. Ce que Thomas d'Aquin appelle les quatre voies, il ne dit pas preuve, il dit voie. Le mot preuve est un mot très récent. C'est un mot moderne. Descartes ne dit pas preuve. Le premier à dire preuve, c'est Leibniz. Descartes dit des raisons de croire. Et des raisons de croire, ce n'est pas des preuves. L'exigence d'une preuve est exorbitante et idiote. On n'a de preuve de rien. Donc je ne vois pas pourquoi on en demanderait pour Dieu, on n'en a pas pour savoir si c'est Omar qui a tué. Et on a des raisons de croire. Et ces raisons de croire, donc vous avez les voies de saint Thomas d'Aquin, et puis vous avez la plus belle des plus belles. Je suis prêt à vous offrir le livre, même si vous m'assurez que vous le lisez. C'est le Proslogion de saint Anselme de Canterbury. Dans Proslogion, ça s'écrit Proslogion, Proslogion, c'est un tout petit livre, Garnier Flammarion, dans lequel saint Anselme de Canterbury, le texte est magnifique, car c'est une prière, et à l'intérieur de la prière, il demande à Dieu de lui donner des raisons de croire en lui. C'est quand même magnifique. Et donc c'est ce que plus tard on a appelé l'argumentologique, mais dire preuve et dire argumentologique, c'est des erreurs. Jamais la théologie n'a parlé de preuve d'existence de Dieu. Mais il y a des démonstrations. Démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'idée de Dieu est une idée non contradictoire. C'est déjà pas mal. Non seulement c'est une idée non contradictoire, mais c'est une idée qui rend assez bien compte des phénomènes. C'est déjà pas mal. On ne peut pas en demander plus. Ah, si c'était une idée contradictoire, comme cercle carré, il y en a certains qui pourraient libérer leur dimanche matin. Mais comme c'est une idée non contradictoire, ça veut dire Dieu est possible. L'être de Dieu, c'est au moins un peut-être. Et tant que l'être de Dieu est au moins un peut-être, il n'appartient à personne de dire, sous prétexte que tu n'es qu'un peut-être, tu n'es pas. L'année prochaine, il faudra qu'on mette au programme les raisons de croire. Les raisons de croire, tiens, pourquoi pas. Mais c'est ça y est, c'est trop tard, le programme est imprimé, mais on peut rajouter quelque chose.
super, faisons ressortir, disons, toute la dimension, on va dire, sacrée du lâcher-prise. Mais comment, est-ce qu'il est possible